Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Des clés pour vivre. Blanche Strem, bonjour.
Bonjour.
Merci de votre présence ici. Vous êtes en pèlerinage pendant ce rosaire ici à Lourdes. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci que je conseille aux auditeurs, Éclat de vie, paru aux éditions de l'Emmanuel fin 2019. C'est quand je suis fort qu'alors c'est quand je suis faible que c'est alors que je suis fort. C'est l'apôtre Saint Paul. C'est aussi tout le sujet et le sujet de votre conférence que vous avez travaillé. Qui dit épreuve, qui dit faiblesse, qui dit vulnérabilité, on se dit comment pouvons-nous être des hommes et des femmes courageux face finalement aux événements de la vie qui nous fragilisent, et on pense bien aux épreuves imprévues de la vie, une maladie, un deuil. Comment pouvons-nous, et quelle est, je dirais, cette force intérieure pour rester courageux au cœur même des événements qui sont compliqués?
Il y a plusieurs réponses à ça et il n'y a pas non plus de recette miracle. D'abord, je dirais que le courage, voilà, c'est un mot qui a la même racine que le mot cœur. Donc il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. Et le courage, on s'en croit pas toujours capable, mais c'est au moment où on va devoir traverser une épreuve et donc devoir faire nos preuves qu'on va se révéler et que ce courage qu'on a en nous va aussi pouvoir se déployer. Donc ça, c'est une des premières réponses. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de la souplesse. C'est vraiment la fable du chêne et du roseau. Voilà, ce chêne qui est bien droit, bien solide, qui se moque un peu du roseau qui est si fragile à côté de lui. Et on le voit dans la tempête. Eh bien, le chêne qui résiste envers et contre tout le vent finit par se briser. Alors que le roseau, qui sait où est sa force, c'est dans sa souplesse, eh bien, il va quelque part plier. Plier, ça ne veut pas dire abandonner, ça ne veut pas dire être lâche, mais ça veut dire savoir qu'on n'est pas tout puissant face aux épreuves et consentir, pendant un temps en tout cas, à plier pour ne pas casser. Et je crois que ça, c'est... C'est pas de moi, non, c'est de Jean de La Fontaine,
oui,
mais
oui.
Je crois profondément qu'il y a quelque chose de l'ordre de la vraie force, c'est la souplesse, c'est la douceur, c'est l'abandon, c'est la confiance. Et c'est voilà.
C'est plein de paradoxes. Vous parlez de courage, au fond, en étant dans cette vulnérabilité et puis cette faiblesse.
Ça demande un grand courage que d'accueillir le réel. C'est très difficile. Ça se fait pas en 2 minutes ni sur un claquement de doigts. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. Tout dépend effectivement des tempêtes qu'on a affrontées, mais certaines nous laissent complètement démunis, sidérés, dans le déni. Enfin voilà, il y a plusieurs étapes à traverser.
Ces étapes, vous les connaissez, vous les avez vous-même traversées?
Tout le monde traverse ces étapes-là.
Qui
n'a pas traversé ça? Mais oui, effectivement, j'ai traversé un peu tout ça. J'ai traversé aussi des relèvements, voilà. Donc oui, ça me parle. J'ai eu à méditer effectivement de manière très personnelle ces questions-là.
C'est pas par hasard qu'on vous demande d'écrire aussi.
Oui, je crois qu'effectivement, oui. J'essaie
est-ce que
de
vous révéler. Est-ce que vous êtes laissé surprendre aussi par l'écriture, cette demande aussi d'écrire?
Je me suis laissée surprendre, je me suis laissée envoyer en mission, et surtout ce qui m'étonne le plus et pour lequel j'ai une gratitude infinie. Et je dis ça dans une grande humilité parce que je sais bien que ça n'est pas de moi. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. L'inspiration, c'est vraiment l'Esprit Saint qui veut agir à travers nous. Si on dit oui à ce qu'il nous demande et qu'on se laisse envoyer, qu'on se laisse porter. Moi, il m'arrive, et je dis ça sans aucune fierté parce que je sais que ça n'est pas moi. Il m'arrive parfois d'écrire des... Et les plus belles pages de mon livre, je les ai écrites, c'est pas anodin, mais la nuit, en me réveillant sur mon téléphone avec un doigt parce que l'inspiration m'était donnée. Et je crois que c'est un beau cadeau et que finalement, ma plume, parfois, c'est simplement mise au service de plus grand que moi. Et ça me met dans une grande gratitude. Voilà.
Alors, cette découverte aussi de la plume, car vous avez aussi une belle plume, s'est révélée après un temps d'épreuve.
Oui, oui, effectivement, pas seulement, mais effectivement, j'ai cette chance d'avoir été contactée par des éditeurs à plusieurs reprises et d'avoir été envoyée dans cette mission de l'écriture, mais qu'au fond, j'ai toujours eu en moi, depuis toute petite. J'ai toujours écrit des poésies, j'ai toujours adoré les rédactions, j'ai aimé énormément la philo. Et dans mes rêves, j'ai toujours rêvé d'être écrivain, même si je ne me le suis jamais formulé, ni tellement partagé, ni fait d'ailleurs des études en conséquence. Mais finalement, ce désir de petite fille est venu de l'extérieur plus tard, et effectivement après avoir d'abord beaucoup pleuré.
Donc on entend après avoir beaucoup pleuré, la fécondité des larmes.
Oh, il y a une fécondité des larmes. Je crois vraiment qu'aucune de nos larmes n'est perdue si on la vit, en tout cas avec Jésus. Je crois qu'il s'intéresse à tout de notre vie et que par nos épreuves, même s'il ne les veut pas, évidemment, même si certaines nous tombent dessus et qu'on peut considérer finalement qu'on laisse faire parce que nous sommes libres aussi, nous sommes dans son grand amour, il a voulu l'homme et la femme libres, eh bien je crois que... dans nos épreuves peuvent venir se greffer la grâce. Voilà, dans ce pèlerinage, on médite sur ce thème comblé de grâce, traversé par la grâce.
Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, traversé par la grâce, comblé de grâce? On ne peut que penser à celle qui s'est présentée à Bernadette en 1858, l'Immaculée Conception. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, l'Immaculée Conception, comblée de grâce?
Oh, d'abord, Marie est un modèle, je crois, pour moi, pour beaucoup, beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi. Marie est une personne, une femme, une figure qu'il est beau de contempler, de méditer. Et il arrive, je pense, à beaucoup de femmes de vouloir la prendre comme modèle et de se reconnaître dans ce qu'elle a vécu. Moi, je sais que cette image du glaive qui transperce son cœur, Je l'ai vécu en perdant un enfant. J'ai vécu ce glaive qui transperce le cœur et à son image, s'abandonner, savoir dire comme elle, je ne comprends pas tout. Même quand elle le perd, quand elle perd son fils, quand il a des paroles qui la dépassent, elle ne comprend pas tout, mais elle garde et elle médite dans son cœur dans une forme de confiance magnifique à contempler et à essayer de suivre humblement.
Est-ce qu'on peut dire que cette femme est admirable et pleine de courage au pied de la croix?
Bien sûr. Voir son fils mourir dans une forme probablement d'incompréhension peut-être. Bien sûr, je ne suis pas dans sa tête à cet instant-là, mais elle sentait, elle savait depuis toujours que quelque chose de plus grand. Et elle a été étonnée, je crois, comme les apôtres et comme nous tous, chaque jour de la résurrection de son fils. Mais sa confiance et son amour au pied de la croix, qui était aussi, je crois, une manière de nous recevoir après chacun comme ses enfants, puisque Jésus lui-même lui a dit « Jean, voici ta mère ». Quand il dit ça à Jean, bien sûr, il le dit à chacun de nous. Je crois que sa présence là était nécessaire, participait du salut en fait.
Donc une présence de femme, une présence de mère au pied de la croix, au fond pour toute l'humanité.
Pour toute l'humanité, bien sûr.
Elle se révèle dans sa grande maternité.
Oui, dans sa grande maternité universelle pour chacun de nous.
Qu'est-ce qui fait la force de Marie pour vous, Blanche Streb?
Oh, c'est l'Immaculée Conception et c'est la grâce, la première comblée de grâce. Elle, il n'y a pas besoin de mettre un S. bien sûr, c'est la grâce, oui.
Alors, il y a aussi cette parole bien connue de Thérèse de Lisieux, « Tout est grâce ». Est-ce qu'on peut dire que tout est grâce, même au cœur de certaines épreuves les plus tragiques de la vie, perdre un enfant?
Cette phrase, elle est difficile à accueillir. Elle est très, très difficile à accueillir. Et je ne sais pas, je ne crois pas, quand elle dit ça, qu'elle veut dire que tout le mal est une grâce. Pas du tout. Je crois au contraire que ce qu'elle veut dire, alors j'ai pas beaucoup médité là-dessus, mais c'est comme ça que je le ressens et que je l'interprète, que dans tout on peut demander et on peut recevoir la grâce. Que dans tout, la grâce veut être présente. La grâce est première. La grâce veut nous inonder, y compris pour faire disparaître le mal ou pour transfigurer le mal, en fait.
Ah, merci, Blanche Strèbe, pour cet exercice du jour dans cette rencontre autour finalement de cette vulnérabilité dans les moments aussi terribles et tragiques d'une vie, de la vie de chacun et chacune d'entre nous. Rester debout au fond avec cette présence de l'Immaculée Conception qui se tenait debout au pied de la croix dans ce moment ultime de la passion, sans oublier la résurrection du Christ, car il y a la victoire de la vie au bout. Blanche Strèbe, merci et je vous donne rendez-vous.